Le premier chapitre d'Ézéchiel nous pose une question. Qui est Dieu ? Alors, il est renommé pour être compliqué, ce premier chapitre. Et c'est vrai qu'il est compliqué, on va s'en apercevoir tout de suite. Mais ce que je vous propose, c'est de tirer des choses simples de ce texte compliqué. Et notamment, ce qu'on peut tirer, c'est la réponse à cette question. Mais qui est Dieu ? Alors, on va déjà situer l'action. Le cinquième jour du quatrième mois de la 30e année, je me trouvais parmi les déportés près du fleuve Kébar. Ézéchiel est un déporté. Comme vous le savez, le peuple d'Israël, dans sa majorité, a peu à peu abandonné son Dieu, dans sa majorité et aussi dans sa classe dirigeante. Et Dieu avait averti le peuple de revenir à lui, et ça a été le ministère d'Ésaïe, puis de Jérémie, de dire au peuple, si vous ne revenez pas à Dieu, Dieu va se mettre en colère et va détruire votre ville, vous déporter. Et c'est ce qui se passe en 586, où les Babyloniens viennent et écrasent la ville, la détruisent le temple et déportent les gens. Mais en fait, ils avaient déjà déporté à plusieurs reprises des fragments de population. Et parmi ces déportés se trouvait Ézéchiel, se trouvait aussi Daniel, dont on a un autre livre dans la Bible. Et Ézéchiel se trouve donc quelque part par là. Le Kébar, c'est semble-t-il ce bras de fleuve qui est ici. Et donc on sait qu'il est au bord du Kébar. Il est quand même loin de chez lui. Hein, Jérusalem doit être par là. Voilà, Jérusalem est là. En gros, ça fait 1000 km. Peut-être pas vol d'oiseau, mais comme ici c'est un désert, on fait le tour. Donc il est loin de chez lui. Et qu'est-ce qui se passe là ? Le ciel s'ouvrit, dit le texte, et Dieu m'envoya des visions. Vous rendez compte ? Le ciel s'ouvre pour Ézéchiel. Quel privilège ! Mais quelle responsabilité aussi, parce qu'il va falloir qu'il fasse partager ce qu'il a vu aux autres. Et c'est cette vision de quelque chose qui est d'habitude invisible, qu'Ézéchiel va essayer de nous décrire. Et on va voir dans son texte qu'il a de la peine à décrire ce qu'il a vu. Et nous, on a de la peine à comprendre ce qu'il a écrit. Le cinquième jour du mois de cette année-là, c'est-à-dire la cinquième année de la captivité du roi Yéhoiakim, Yéhoiakim, c'est l'avant-dernier roi Jérusalem avant que la ville soit détruite. Et c'est un de ces rois impies qui n'est pas revenu à Dieu. Et il a été lui aussi déporté à Babylone par Nabucodonosor, l'empereur de Babylone. Alors donc, à cette période-là, vous voyez que c'est un moment quand même assez précis, l'Éternel adressa la parole à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, du pays des Chaldéens, près du fleuve Kébar. Là, la main de l'Éternel se posa sur lui. Il est loin de chez lui, Ézéchiel. Il peut se sentir abandonné par Dieu. Lui, vous avez remarqué que c'est le fils d'un prêtre, donc il est prêtre lui-même. mais un prêtre loin de son temple. Et qui peut bien se demander si, là où il est, Dieu pense à lui aussi. Est-ce que Dieu n'est pas que le Dieu du temple, que le Dieu de Jérusalem, que le Dieu de la Palestine? Et il va avoir une réponse. Dieu est Dieu partout. Dieu est chez lui partout. Nous-mêmes, nous sommes loin de notre patrie. Notre patrie, elle est céleste. C'est ce que dit Hébreux 13. Nous n'avons pas ici de cité permanente, nous cherchons celle qui est à venir. Nous pouvons donc dans ce monde parfois nous sentir étrangers, isolés, un petit peuple déporté parmi des gens qui ne leur ressemblent pas. Mais là aussi, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous atteindre, parce que ce Dieu est notre Dieu et il est présent partout. Alors, la vision elle-même. Tout au long de cette vision, on ressent bien la difficulté pour Ézéchiel de nous faire partager ce qu'il a vu. Parce qu'il voit, ce qu'il voit, c'est impossible à décrire. Il n'y a pas de mots pour cela. Alors, non seulement il n'y a pas de mots, mais il y a des gens qui ont essayé de dessiner, de peindre ce qu'il avait vu. Et vous allez voir quelques essais que je vais vous montrer, que j'ai trouvés sur Internet, qui vous montrent combien c'est variable d'un artiste à un autre, parce que c'est tellement plus grand que notre petite tête. Alors, je vous montre quelques essais. Alors, c'est un peu flou, hein, je suis désolé, mais... Voilà, donc la première image, une gravure assez ancienne, qui nous montre un peu l'ensemble, mais pas trop les détails. La deuxième, alors une représentation qui insiste surtout sur le côté terrifiant. Ce que les autres, peut-être, que je vous montrerai après, ont un peu oublié, notamment l'idée du feu. Et puis, dans cette image, on voit Ézéchiel qui est terrifié. Vous savez ce que ça veut dire, terrifié ? Voilà, à ras de terre, mettre le nez par terre, tellement on a peur. Et là, il est terrifié. C'est une vision terrifiante. La troisième image, qui rajoute des éléments qui ne sont pas dans notre chapitre premier. Alors, vous direz, c'est déjà assez compliqué comme ça, lui, il en rajoute. Il rajoute le temple de Jérusalem, ici, il rajoute le rouleau, des choses qui seront dans le livre d'Ézéchiel, mais pas dans ce premier chapitre. La quatrième, une image assez énigmatique, mais qui a le mérite de montrer la majesté du personnage qui est tout en haut, qui est assis sur le trône. Finalement, de toutes les représentations, c'est celle-là que je préfère. Et puis, une image qui essaie de nous faire croire qu'Ézéchiel a vu des ovnis. Et puis, une dernière image, toute douce, c'est pastel, c'est joli, c'est mignon. Je crois qu'elle est assez loin de la vision terrifiante qu'a vue Ézéchiel. Elle a quand même la particularité d'avoir essayé de montrer ce que c'était que les êtres vivants dont on va parler tout de suite. On reprend notre texte. « Je vis soudain un vent qui venait du nord et qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. » Cette vision rappelle la présence de Dieu sur le mont Sinaï. Si vous avez en tête Exode 20, cette présence où on voyait sur la montagne des éclairs, des grands bruits, des tremblements, de la fumée, des... cette présence de Dieu sur la montagne qui avait terrifié le peuple au point qu'ils avaient dit « Non, non, on veut plus que Dieu nous parle comme ça. Toi, Moïse, vas-y, et puis tu nous diras. Mais nous, on veut plus que tu nous parles comme ça. » On trouve ça dans Exode 20, verset 19. Ils dirent à Moïse « Parle-nous toi-même et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. » Le peu qu'Ézéchiel va comprendre de ce qu'il voit, et nous aussi, n'est possible que parce que l'Esprit de Dieu nous rend capables de comprendre les choses de Dieu. Et probablement que le vent qui est ici, vous savez qu'en hébreu le mot vent et le mot esprit c'est le même mot, roar. Hein, le vent qui est ici est une allusion à l'esprit. Et on verra plus loin dans le texte qu'Ézéchiel nous parle de l'Esprit de Dieu. Paul dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, « Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme. Seul l'esprit de l'homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. » Alors, là, il y a un texte à lire un peu plus long qui concerne les quatre êtres vivants. Donc, en gros, dans cette vision, il y a quatre êtres vivants. C'est déjà un peu énigmatique. Il y a quatre roues. Alors là, on ne comprend plus rien. Vous avez une étendue et par-dessus, vous avez un trône. Commençons par les quatre êtres vivants. En son milieu, je distinguais quelque chose qui ressemblait à quatre êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. Chacun d'eux avait quatre faces et quatre ailes. Leurs jambes étaient droites, leurs pieds étaient comme ceux d'un taureau et brillaient comme du bronze poli. Sous leurs ailes apparaissaient des mains humaines qui étaient tournées dans les quatre directions, de même que leurs faces et leurs ailes à tous les quatre. Leurs ailes se touchaient l'une l'autre par leurs extrémités. Quand ils se déplaçaient, ils ne se tournaient pas, mais chacun avançait droit devant soi. Leur face ressemblait à celle d'un homme. Ils avaient tous les quatre une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Chacun d'eux avait deux paires d'ailes. Deux de ses ailes se déployaient vers le haut et touchaient celles des autres, et les deux autres couvraient leur corps. Chacun d'eux avançait droit devant soi. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller, sans qu'aucun d'eux ne se tourne. Ces êtres vivants avaient l'aspect de braises incandescentes. Ils paraissaient embrasés comme des torches brillantes. Le feu courait entre ces êtres vivants. Ils avaient l'éclat du feu et des éclairs jaillissaient de ce feu. Ces êtres couraient, allant et venant en tous sens, comme des éclairs. Oui, je vois Evelyne qui fait des grands yeux comme ça. Tu comprends rien ? Moi non plus. C'est pas fait pour être compris, de toute façon. C'est fait pour... Ah ben, il devait être effrayé, Ézéchiel. Hein? Donc, on retrouve ces quatre êtres vivants avec ces caractéristiques. On appelle ça des chérubins. Des chérubins, c'est ça. C'est-à-dire des êtres qui sont composites et qui sont fabriqués avec des morceaux d'êtres différents. On trouve ça dans les temples de l'Antiquité, sous le nom de caribou, c'est le même mot. Hein. Alors les chérubins, ce n'est pas du tout des anges, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Aucun texte ne nous dit qu'un chérubin, c'est un ange. Hein. En fait, on a le mot chérubin en français, c'est la transcription du kérouim en hébreu. Voilà. Et ils réunissent les caractères de plusieurs êtres composites. Et on va retrouver ces quatre êtres vivants dans l'Apocalypse, chapitre 4 et 5. Hein. Ils sont devant le trône de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces chérubins ou de ces quatre êtres vivants ? ce sont probablement des symboles qui représentent tout ce qu'il y a de plus excellent dans la création de Dieu, tout ce qu'il y a de plus glorieux dans la création de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont des faces composites d'aigles, de taureaux et humains. On continue et ça ne va pas s'arranger. Voilà les roues. En contemplant ces êtres vivants, j'aperçus à côté de chacun d'eux une roue qui touchait terre. Les quatre roues étaient pareilles. Elles semblaient faites en chrysolite et paraissaient encastrées l'une au milieu de l'autre. Elles pouvaient donc se déplacer dans les quatre directions sans pivoter. Les jantes des quatre roues étaient d'une dimension énorme et terrifiante. Elles étaient couvertes d'yeux sur toute leur circonférence. Quand les êtres vivants se déplaçaient, les roues se déplaçaient à côté d'eux, et quand ils s'élevaient de terre, elles s'élevaient aussi. C'était des roues volantes. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller, les roues s'élevaient en même temps qu'eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. Quand les êtres vivants s'avançaient, ils se tenaient arrêtés ou s'élevaient de terre, les roues s'avançaient, se tenaient arrêtées ou s'élevaient de terre en même temps qu'eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. On a beaucoup de mal à se représenter ces roues. Je ne sais pas, Karine, si ta voiture, elle a des roues comme ça. Mais ça serait un peu dangereux parce que de temps en temps, elle décolle. Hein. Et puis, elles sont couvertes d'yeux. Bon, continuons. Au-dessus de la tête de ces êtres vivants s'étendait quelque chose qui ressemblait à une étendue céleste et qui avait l'éclat éblouissant du cristal. Sous cette étendue, ils tendaient leurs ailes jusqu'à toucher celles de leurs voisins, et chacun en avait deux qui lui couvraient le corps. Une étendue comme ça, on retrouve aussi cela dans l'Apocalypse, avec devant le trône de Dieu ce que Jean, dans l'Apocalypse, va appeler une mer de cristal. Verset 24. Quand ils se déplaçaient, j'entendais le bruit de leurs ailes, un bruit semblable au grondement de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit de grand tumulte comme celui d'un campement guerrier. Quand ils s'arrêtaient, ils abaissaient leurs ailes. Vous êtes comme moi, vous ne comprenez pas. Mais je pense que Ézéchiel, il devait pas bien comprendre non plus. Et puis lui, il le voyait en direct, c'est-à-dire que nous, on est paisiblement assis sur notre chaise, enfin, surtout vous. Mais Ézéchiel, il était terrifié de voir ça. Et c'est pas fini. Alors, une voix retentit, au-dessus de l'étendue céleste qui surplombait leur tête. Par-dessus cette étendue, apparaissait comme une pierre de saphir qui avait la forme d'un trône, et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, au point le plus élevé, se tenait un être ayant l'aspect d'un homme. Je vis que la partie supérieure de son corps, au-dessus de ce qui ressemblait à sa taille, avait l'éclat étincelant de l'airain et l'aspect du feu tout autour. Et la partie inférieure semblait comme baignée de feu, elle était inondée de clarté. La clarté qui l'environnait avait l'aspect de l'arc-en-ciel qui resplendit dans les nuées en un jour de pluie. C'est ainsi que m'apparut ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. Qui est celui qui se tient tout en haut de ce que nous décrit l'Éternel ? Qui est cet être divin, paré de la gloire de l'Éternel, mais qui a l'aspect d'un homme? Si vous lisez le premier chapitre de l'Apocalypse, versets 12 à 18, vous avez une description de Jésus. de Jésus en gloire. Et cette description, elle a beaucoup de points communs avec notre passage. Alors, je ne vais pas le lire pour ne pas rallonger, vous pourrez le lire par vous-même, mais ici, Dieu nous est représenté sous un aspect humain. Notons au passage l'arc-en-ciel. Vous vous souvenez l'arc-en-ciel ? Le signe de l'alliance qui avait été donnée à Noé, de l'alliance entre Dieu et les hommes. Signe de paix, je ne détruirai plus la planète par le déluge. À cette vue, je tombai le visage contre terre et j'entendus quelqu'un me parler. On passe au chapitre, non pas 3, mais 2, chapitre 2. Il me dit, « Fils d'homme, tiens-toi debout, car je vais te parler. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout, et j'entendis celui qui me parlait. Qui est Dieu ? Il nous apparaît ici en gloire. Le Tout-Puissant, le Tout-Terrifiant. La gloire de Dieu est représentée ici comme un trône gigantesque, merveilleux, incompréhensible, écrasant, indescriptible. Elle est représentée comme un char avec des roues et des êtres vivants qui se déplacent. Pas vraiment des chevaux, mais des êtres vivants. La gloire de Dieu est portée par la gloire de sa création. On peut penser au psaume 19 qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Ou l'épître aux Romains qui dit « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres » quand on y réfléchit. Toute la création est aux ordres du Créateur. Et puis le trône de Dieu, il est mobile, rapidement mobile. Il bouge comme l'éclair, vous avez vu. C'est important pour Ézéchiel, le peuple loin de sa ville, loin de son temple, en déportation. Ça veut dire pour lui que Dieu est Dieu partout, que Dieu ne l'a pas abandonné, que là où il est, Dieu règne, même s'il est en terre étrangère. Et pour nous, qui sommes aussi étrangers sur cette terre, ça signifie que Dieu est partout et puissant pour nous, là où nous sommes. Partout où nous sommes, Dieu règne. Et puis le trône de Dieu, dans la vision d'Ézéchiel, vous avez vu, il est à la fois terrestre, et céleste. Il fait la jonction entre ces deux mondes. Là encore, rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Et la vision nous montre aussi que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige toutes choses. Mais c'est un Dieu qui est tout-puissant, écrasant, terrifiant, qu'on ne peut pas approcher. Et pourtant, un Dieu à visage humain. Un Dieu rassurant, un Dieu encourageant, un Dieu qui se présente avec un aspect humain, un Dieu qui va parler à Ézéchiel, un Ézéchiel écrasé, terrifié, et qui va lui dire « Relève-toi, tiens-toi debout, je veux te parler. » Un Dieu qui parle aux hommes, qui veut les relever, les remettre debout. On voit la puissance de Dieu totale, terrifiante, et son amour pour les hommes et les femmes que nous sommes. Alors, qui est Dieu ? Ce n'est pas notre copain. On n'a pas de familiarité à avoir avec Dieu. On n'est pas comparable. Il nous écrase de toute sa puissance, de toute sa splendeur, de toute sa perfection. Il a créé toute chose, nous lui devons tout. Et nous réalisons maintenant, quand on voit la représentation de ce qu'Ézéchiel a vu, on réalise la folie d'Adam et d'Ève qui ont préféré désobéir à ce Dieu-là. Dieu a tous les droits sur les hommes. Et on voit bien la réaction d'Ézéchiel. À cette vue, je tombais la face contre terre, terrifié, c'est le cas de le dire. Mais c'est un Dieu qui aime les humains, ses créatures, et au lieu de les écraser, il s'approche d'eux. Et c'est sous une forme humaine qu'il sait le plus s'approcher de nous en Jésus-Christ. Le début de l'Épître aux Hébreux commence comme ceci. « À bien des reprises et à bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes, et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. » Et puis Jean, début de l'Épître de l'Évangile de Jean, nous dit « Celui qui est la parole est devenu homme, il a vécu parmi nous, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique. » Envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Bien sûr, à l'époque où il vit, Ézéchiel ne sait pas encore que Dieu s'approchera de nous en Jésus-Christ, parce que ça va se passer 5 siècles après lui. Pourquoi s'est-il approché de nous? Pour dire à ceux qui le respectent, « Tiens-toi debout. Relève-toi, j'ai des projets pour toi. » Et il nous donne son esprit pour tenir debout. Dieu est partout, nul n'échappe à sa vigilance, à sa puissance, à sa sainteté, à sa justice. Il est écrasant dans sa perfection, mais il veut relever ceux qui le reconnaissent. Et encore aujourd'hui, nous avons un Dieu qui appelle chacun à lui répondre. Relève-moi, Seigneur. Vous voyez que de ce passage compliqué, on tire des choses simples. Qui est Dieu? Le Tout-Puissant, le Créateur, le Parfait, celui qui peut nous écraser, mais celui qui nous aime, qui nous tend la main et qui nous relève.